des concerts à bolo, de la danse à gogo, Radio Esperanza.
Débat.
Débat. Débat sur Radio Esperanza. Débat. Débat.
Débat sur Radio Esperanza 106.2 autour de Floref, également sur internet radio.esperanza.be, sur les radios partenaires à Bruxelles, Radio Campus et Radio Panique, à Mons, UFM, à Namur, Run, à Chigny, Radio Sud et à Liège, 48 FM. Et on vous parle aujourd'hui, on revient sur un débat du CNCD qui a eu lieu aujourd'hui, c'est à 17h30 si je ne m'abuse, et donc autour de la table pour parler du climat, de la fameuse conférence ce climat qui aura lieu à Paris. Ce sera du 30 novembre au 15 décembre prochain. Mais nous avons David Mendes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc de la campagne Climate Express.
Paris à prendre, plus précisément. C'est le pendant nord-sud, on va dire, du Climate Express.
D'accord, on expliquera ce que c'est le Climate Express juste après.
Pas de souci.
Alors, Pierre Osé,
Ozer,
voilà. Vous êtes de l'ULG, l'Université de Liège.
En effet.
C'est très bien.
Ouais, c'est formidable.
Non, je m'attendais à ce qu'il y ait une suite ou je sais pas.
Oui, tout à fait. Faculté des sciences, département sciences et gestion de l'environnement du campus d'Arlon.
Voilà, l'université de Liège, c'est grand alors.
Ah, c'est
Arlon.
C'est énorme. Ça déborde presque des frontières.
Et puis Michel Genet de Greenpeace, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, on va parler de climat. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette fameuse conférence qui se tiendra à Paris le 30 novembre prochain. Une conférence sur le climat, on se souvient du protocole de Kyoto, de la conférence à Copenhague, encore une énième. On parle de COP21 parce que c'est la 21e conférence sur le climat, c'est à peu près ça ?
Oui, exact. Ouais. C'est moi qui y vais ?
Oui, absolument.
Les autres bois,
Michel Genet, donc.
Voilà. Donc, effectivement, depuis l'accord de Kyoto, tous les ans se tient ce qu'on appelle la conférence des parties, Conference of the Parties en anglais, ça fait COP, un nom un peu barbare. Et donc, c'est là que se retrouve maintenant, contrairement à Kyoto, l'ensemble des pays de la planète, où il y a une sorte d'engagement. Il y a une sorte d'engagement de l'ensemble des pays pour dire OK, on va faire un effort pour éviter un objectif d'augmentation de la température pour la fin du siècle qu'on s'est fixé, qui est un objectif de 2 degrés. Les scientifiques nous disent si la température sur l'ensemble de la planète dépasse les 2 degrés, on risque d'être vraiment dans une situation non maîtrisable. Et donc, c'est pour ça que chaque année, et puis effectivement, vous avez cité Copenhague qui était le gros objectif, où on est sortis tous un peu groggy parce qu'il n'y avait rien qui est sorti. Et donc, on se dit maintenant, Paris, c'est une date un peu fatidique. Il faut qu'on arrive à un accord pour faire en sorte que l'ensemble des pays de la planète, mais c'est vachement compliqué parce que tout le monde a des intérêts très divergents, s'engagent à faire des efforts de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour faire en sorte qu'on ne dépasse pas ces 2 degrés.
Bon, en même temps, on va se dire encore une conférence. Enfin, on est pessimiste. Hein. On se dit pourquoi celle-ci marcherait
C'est une bonne question. Pourquoi celle-ci marcherait, c'est un peu le sentiment qu'on a. Elle va marcher puisque David expliquera, on va faire le Climate Express, on ira tous à Paris pour mettre de la pression sur les politiques et leur dire, les gars, il faut prendre vos responsabilités maintenant. Ça, c'est vrai. D'un autre côté, oui, c'est un processus tellement complexe avec tellement d'intérêts divergents que ce n'est pas évident. Il y a quelques signes positifs néanmoins, notamment le fait que même si c'était en deçà de nos attentes, les États-Unis et la Chine notamment ont dit, ce qui est assez nouveau dans leur chef, ont dit, bon, nous, on s'engage à faire des efforts de réduction 27%, je pense, autour de 2025 de mémoire. C'est assez nouveau que les États-Unis se mouillent, puisqu'on sait que Barack Obama est assez minoritaire par rapport à la majorité républicaine au Congrès. Et il faut savoir que les républicains aux États-Unis, à 50% d'entre eux, ils ne croient pas au réchauffement climatique. C'est une invention, il ne faut pas y croire. Et du côté chinois, ce qui est intéressant avec les Chinois, c'est que, enfin intéressant si je puis dire, c'est qu'ils subissent assez directement l'impact du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'énergie au charbon qui est utilisé en Chine et qu'on sait la pollution de l'air dans les grandes villes et l'impact sur la santé publique. Et donc voilà, c'est deux signes un petit peu positifs. On a l'Europe qui était souvent le moins mauvais élève de la classe, qui le reste, mais la classe est de moins en moins bonne, donc c'est pas terrible. Donc voilà, on a quelques signaux qui ne sont pas trop négatifs, mais c'est vrai que le risque est quand même assez grand qu'au bout des 15 jours, on dise « Ah, Hollande, tout content, nous dise on a un super accord » et que malheureusement, il n'y ait pas grand-chose dedans.
Alors justement, cette campagne Climate Express, David, ça consiste en quoi ?
Mais du coup, c'est, à la base, c'est un mouvement de citoyens, notamment, qui étaient partis à Varsovie et qui ont décidé de un peu plus structurer le mouvement pour cette fois-ci arriver à 10 000 Belges qui se mobiliseraient à Paris, ce qui est un bel objectif. Donc le Climate Express, qui est vraiment un mouvement militant, qui à la base est né en Flandre, qui maintenant s'implémente en côté francophone, est soutenu par la Coalition Climat, qui est l'organisme qui chapeaute, on va dire, qui coordonne tout le mouvement belge, autant francophone que néerlandophone, tout le mouvement environnementaliste et qui essaie de structurer, et qui a d'ailleurs eu plusieurs campagnes dans les années à venir. Du coup, c'est vraiment un mouvement qui, je pense, dépasse les frontières et a réussi à mobiliser des gens très différents. Et donc, nous, au Centre National de Coopération et Développement, donc au CNCD 1111, où je travaille, on a décidé de prendre part au Climate Express en ayant un axe qui soit propre à nous, c'est-à-dire un axe nord-sud, un axe de solidarité internationale, parce que qu'est-ce qui nous indigne aujourd'hui, c'est la contradiction flagrante du fait que ce sont ceux qui polluent le moins qui sont ceux qui sont les premières victimes du changement climatique. Et à partir du moment où c'est ceux qui polluent le moins qui sont les premières victimes, il s'agit de trouver des mécanismes législatifs qui permettent de réparer, de restaurer une forme d'équité entre les peuples. Et donc c'est très important ici à Paris, une des questions fondamentales, c'est la question du financement climat. C'est qui va financer la transition? On sait qu'on doit aller vers une transition écologique et sociale. Qui va permettre de mettre à disposition l'innovation qu'il faudra pour des pays et des économies de fleurir et d'être prospères sans... en étant plus respectueux de l'environnement. Et je pense que ici l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est comment arriver avec un message qui soit finalement solidaire de ceux qui ne pourront pas être à Paris. Et donc s'il fallait résumer une des raisons pour laquelle on a monté la campagne Paris à prendre avec le CNCD, c'est parce qu'en fait on veut y être en solidarité de ceux qui ne pourront pas s'y rendre, c'est-à-dire les personnalités et les personnes, plutôt les peuples du Sud, qui aujourd'hui souffrent de notre consommation, de notre production et du fait que notre modèle n'est pas soutenable. Et la meilleure manière d'être solidaire avec eux, c'est de réduire nos émissions ici, en Europe, en Occident en général.
Alors, finalement, quelles sont les demandes par rapport à ce réchauffement climatique aujourd'hui? Quelles sont les demandes qui seront faites à Paris, les mesures qui seraient à prendre idéalement?
Alors, si je m'y colle à nouveau, donc en gros, nous, ce qu'on veut, le mouvement climatique que David a évoqué, la coalition climat, dans lequel se retrouvent les organisations environnementales nord-sud, mais aussi les syndicats, ce qui est très très important, c'est d'avoir un accord qui soit ambitieux. Ambitieux, ça veut dire qu'effectivement, on s'inscrive, on décide d'une trajectoire de réduction de gaz à effet de serre qui nous permette, en 2100, de ne pas dépasser les 2 degrés. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'idéalement, on aurait dû, cette année, atteindre un pic, un sommet d'émissions de gaz à effet de serre, et qu'à partir de cette année, il faudrait décroître. Alors on est loin d'y être, mais néanmoins, il faut vraiment qu'on s'inscrive dans une trajectoire. L'Europe parle de 40% pour 2030. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, on doit être entre moins 80 et 90% de gaz à effet de serre vers 2050. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sans doute un grand shift en matière énergétique, notamment. Sortir de tout ce qui est énergie fossile, charbon, etc. Charbon et pétrole surtout. Et puis avoir des transports alternatifs, etc., etc. Mais ça, j'imagine qu'on y reviendra peut-être. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est un accord qui soit équitable. Comme David l'a dit, les pays qui aujourd'hui subissent le plus le changement climatique sont les pays les plus pauvres. Les pays les plus pauvres et ceux qui ont le moins causé ce réchauffement climatique, puisque c'est un peu notre responsabilité à nous, pays industriels. Et donc, il y a un mécanisme qui est prévu, qui s'appelle le Fonds vert pour le climat, où on est censé arriver à 100 milliards de dollars alimentés par tous les pays émetteurs qui soient dans ce fonds et qui permettent aux pays du Sud à la fois de faire face au changement climatique aujourd'hui et puis à la fois de ne pas bloquer leur développement, parce qu'on a un peu facile, évidemment, de notre côté, de leur dire, les gars, vous développez pas trop parce qu'il y a déjà trop de CO2 dans l'air. Donc ça, c'est vraiment un enjeu essentiel parce que tous les pays du Sud disent, écoutez, nous, on n'est pas prêts à faire des efforts puisqu'on subit les effets de votre action. Donc à vous de la compenser. Puis là, on fera aussi des efforts de notre côté. Et puis, il faut un accord qui soit, contraignant, c'est-à-dire que chacun va à Paris et puis revient en disant, oh non, j'ai rien dit, j'ai rien décidé. Il faut effectivement que chaque pays s'engage, que ça soit traduit dans les lois, etc., sur une trajectoire diminution de CO2. Le dernier point, et justement, je mentionnais les syndicats, c'est pas neutre, c'est qu'effectivement, tout ça, ça doit être juste. C'est-à-dire que si on s'engage vraiment dans cette transition écologique, économique, etc., il faut qu'il n'y ait pas trop de victimes de cette transition-là. Les types qui travaillent dans du polluant aujourd'hui, il faut qu'ils retrouvent du boulot demain. Et donc ça, c'est aussi le caractère juste de cet accord qu'on demande.
Oui, voilà, parce que je me demandais un peu ce que les syndicats faisaient dedans, mais évidemment, ça va toucher aussi le monde du travail. Alors là, c'est la bête question. Est-ce qu'on va vraiment dans le mur si on continue comme aujourd'hui?
Ah oui.
Le scientifique doit parler.
Bien sûr. En fait, ce qui se passe, c'est que, on l'a vu lors des présentations ce soir à Esperanza, c'est que, en réalité, il faut que nous réduisions nos émissions de gaz à effet de serre, mais en réalité, si on regarde les 20 dernières années, nous sommes à, grosso modo, plus 3% par an. Donc il faudrait d'abord les stabiliser, ce qui n'est pas une mince affaire, et puis les réduire, ce qui est encore une autre affaire. Et grosso modo, quand on regarde les engagements des différents pays dits développés, on est vers une espèce de stabilisation, un petit peu de réduction, mais sans plus. Mais grosso modo, l'essentiel des émissions actuelles proviennent des pays émergents. Et les pays émergents augmentent à volo. Et donc, moi, je crois très très peu, en fait, Enfin, j'espère forcément, j'espère comme tout le monde qu'il y aura un accord fort à Paris, mais je crains que ça ne soit comme à Copenhague. Et donc, au final, ce que je pense, c'est que la société civile s'empare de cette question. Et comme le disait Michel Genet, avec les syndicats, etc., etc., qu'on prépare nous-mêmes une autre société et que cette société soit un modèle pour, en réalité, montrer une autre voie. Et Dieu sait que... Alors, vous êtes émis sur différentes fréquences, que ce soit à Liège, à Arlon, à Tournai, etc., etc. Dieu sait que partout où on nous entend, il y a des initiatives locales qui sont en train d'être créées, ou qui sont déjà créées depuis un certain temps, ou qui sont sur le point d'être créées, et il faut absolument s'investir là-dedans pour montrer la voie. Parce qu'en réalité, c'est la seule chose qui nous sauvera, c'est de pouvoir nous-mêmes créer un nouveau modèle de société, parce qu'on a montré, et je crois que les intervenants précédents l'ont dit, ce sont des modèles qui ne sont pas durables, et c'est à nous de faire la démarche, de montrer qu'une autre chose est possible. Parce qu'au final, quand on voit les pays du Sud, ou les pays émergents, eh bien en fait, ils souhaitent être le reflet de ce que nous sommes. Et si nous sommes quelque chose d'autre, et que nous arrivons en même temps, mais ça c'est un autre deal, à pouvoir partager nos technologies à venir qui sont moins... émettrice de CO2 et d'autres gaz à effet de serre, et bien à ce moment-là, la partie sera gagnée. Il faut vraiment montrer, tout en s'inspirant de ce qui se fait dans les pays du Sud, donc comme quoi c'est quelque chose d'extrêmement global, il faut pouvoir montrer la voie, ensemble, parce que si on ne le fait pas ensemble, quand je dis ensemble, c'est le Burundi, le Niger, la Belgique et les États-Unis. On n'y arrivera pas, en fait. On est tous dans le même train. Parce qu'une molécule de CO2 qui a été mise ici ou ailleurs dans le monde aura le même effet sur le climat, peu importe ailleurs. Donc, voilà. Je pense que nous avons toutes les cartes en main, nous, la société civile. Et c'est ça que c'est vraiment chouette de pouvoir parler sur Radio Esperanza, où c'est vraiment un festival qui est très engagé. Très engagés et où les gens se sentent responsables. Je pense que nous sommes tous responsables. Et il faut partager en fait cette nécessité de changement avec nos voisins, nos cousins, notre famille, enfin tout le monde. Tout le monde. C'est absolument nécessaire. Voilà.
Après, on peut se dire, les pays émergents ou les pays ce qu'on appelle en voie de développement... disent que voilà, nous, pays occidentaux, nous avons pollué pour justement arriver à ce qu'on est aujourd'hui et finalement qu'on va les empêcher d'arriver à ce que l'Occident est aujourd'hui en réduisant leur gaz à effet de serre. Il y a comme une... Comment leur permettre du coup...
On a fait des erreurs. Hein.
Ah bah oui, mais c'est clair, on a fait des erreurs. Après, on peut pas empêcher les autres d'en faire.
Non, allez. Prenons des cas précis, prenons des cas de pays du Sud. Les pays du Sud n'ont pas de recherche et développement. Les pays du Sud sont à la botte des pays de l'Occident. Point barre. Ce qu'il nous faudrait faire, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies d'adaptation chez nous comme ailleurs, et de pouvoir les partager, tant au point de vue de la manière de procéder qu'également de la manière de consommer. C'est simple. Et donc, à partir de là, je répète à nouveau que les pays du Sud tentent de copier ce qu'on leur donne comme
modèle,
espèce de Graal occidental. Et si le Graal occidental est en train de virer vers quelque chose de plus green, mais sans rigoler, hein, c'est-à-dire sans externalité, enfin bref, de plus green, eh bien, on peut tous y arriver. Mais de toute manière, lorsque tout le monde parle de personnes dans les pays du Sud qui sont en train de souffrir par nos émissions excédentaires dans les pays du Nord, c'est vrai. Mais en même temps, c'est à nous de les réduire et de montrer qu'une autre voie est possible. Et c'est à eux aussi, et d'ailleurs on s'inspire énormément dans nos recherches universitaires de ce qui se passe dans les pays du Sud, pour pouvoir tenter d'adapter ça ici. Et donc, si vous voulez, tout est tenu, tout est ensemble.
Intérieur.
Un avis les autres, c'est...
Je pense que tout est relié, et surtout qu'aujourd'hui c'est difficile quand on parle de Sud, et nous on le fait encore volontiers, mais il y a vraiment différents, je dirais, avec le pays émergent, etc. Il y a vraiment des situations très différentes de pays en pays, mais je pense que, c'est vrai que la chose qui est importante, c'est comment on peut montrer qu'une alternative crédible, durable, est possible vis-à-vis du système dominant. Et je pense que, pour l'instant, et je trouve que tout, enfin, que le local et le global ou le politique soient liés, c'est sûr, mais moi, je dirais même que c'est pas tant, même si c'est très bien que les gens s'organisent localement, je pense que le fait que les gens s'organisent localement, ça va peut-être permettre de changer l'opinion que leurs voisins ou leurs familles vont avoir des alternatives et même des politiques qu'il faut prendre à long terme. Et j'ai l'impression que je suis intimement convaincu qu'en fait, sans décision globale, les initiatives locales ne suffiront pas. Par contre, les initiatives locales peuvent permettre de changer la mentalité et le point de vue des citoyens et faire qu'eux votent différemment et forcent les politiques à prendre opposition. Et je pense que l'enjeu, c'est ça. C'est qu'en fait, on change, qu'on ait une base citoyenne, une population qui soit plus armée, plus informée. Et c'est clair que c'est en regardant son voisin, c'est pas tellement en passant au JT qu'on change la société, mais c'est vrai que quand on inspire les autres autour de soi, on se rend compte qu'en fait, ça a un impact et qu'effectivement, les citoyens soient assez organisés pour dire à leurs dirigeantes, aux personnes qui les représentent, ça suffit et je pense qu'il faut pas seulement changer ma politique, moi, dans mon jardin ou chez moi, mais aussi que toi, qui me représentes au Parlement européen ou aux Nations Unies, tu sois ambitieux. Et je pense que c'est pour ça que je trouve qu'il y a une énorme... c'est vraiment l'éducation populaire, quoi. Dans l'action, en voyant les gens faire des choses, ça change le regard sur le monde et ça change le point de vue citoyen et d'électeur. Et je pense que peu importe qui prendra la décision, que ce soit Charles Michel ou n'importe quel homme politique, il faut qu'il soit obligé de le faire. Et, et ça se voit autant pour la fiscalité que pour l'environnement, que pour la question sociale. Pour moi, c'est en fait redonner le sentiment aux gens qu'ils sont capables de changer la société. Alors, il ne faut pas faire des plans sur la comète, mais redonner le sentiment qu'on peut avoir des petites victoires. Et là, je reviens sur la COP21 à Paris. C'est sûr qu'on n'aura pas l'accord qu'on souhaite avoir. Mais si on arrive déjà à mobiliser 10 000 Belges, c'est déjà une belle petite victoire. Si on arrive à faire que ce mouvement social soit plus pérenne, qu'il y ait des gens qui sentent qu'en fait, dans cette mobilisation, ils ont réussi à mobiliser des gens, qu'ils ont fait des actions dans lesquelles ils se sont sentis investis, ça a fait qu'ils ont eu confiance en eux, etc., et qu'ils se sentent capables et en fait acteurs de leur vie, c'est déjà des victoires. Et donc on doit tout à fait, je pense, être très rationnel, dans le sens où on doit vraiment citer, nommer ce qu'on considère qui sont nos objectifs et se réjouir de ce qu'on a obtenu. Et à le lendemain de Paris, pour ne pas avoir la gueule de bois qu'on a eue à Copenhague, il faut effectivement se réjouir de ce qu'on va avoir, c'est-à-dire on va avoir 10 000 personnes, 10 000 Belges en tout cas, dans les rues de Paris. Et je pense que tout est comme ça. La société telle qu'elle est aujourd'hui, inégalitaire, polluante, etc., elle s'est construite sur des paradigmes qui durent depuis longtemps, depuis très longtemps. Et surtout avec la suite des 30 glorieuses, c'est pas un très bon mot, mais avec l'idéologie qu'on appelle néolibérale ou conservatrice, elle a pris du temps à s'implanter et elle est vraiment bien implantée. On aura besoin d'au moins autant de temps pour la déconstruire. Et donc, réjouissons-nous qu'on voit des initiatives qui se mettent en place, réjouissons-nous de voir que des choses vivent, et comme le disaient très bien Pierre et Michel, des choses existent. Montrons l'exemple, toujours en sachant que notre lutte locale a un impact global et jamais considéré. Moi, j'aime pas beaucoup les gens qui disent « think global, act local ». Moi, je dis « tu think global, tu act local et tu fais tout local et global ». Il n'y a pas d'opposition. Le local et le global sont liés. Et les lois, la politique, les Nations Unies, même si elles sont très 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 décevantes pour le moment, doivent être un instrument qu'on doit utiliser, qui peut être utile à un changement de paradigme.
Oui, juste abonder dans le même sens, quand Pierre parlait des initiatives locales, évidemment à 300%, et on voit les villes en transition, on voit les coopératives citoyennes éoliennes, etc. Tout ça, c'est des signes hyper positifs. Mais effectivement, arrêter l'eau quand on se brosse les dents ne suffit pas. C'est sympa, il faut le faire, évidemment, mais ça ne suffit pas. Et donc, ne soyons pas schizophréniques. On est consommateurs, soyons consommateurs durables, équitables, etc. On est épargnants, il y a les newbies et financiers qui sont présents ici à Esperanza. Donc, notre épargne a un impact aujourd'hui. Il y a une super campagne qui fait pas mal de bruit et qui, je pense, a vraiment des chances de créer du changement. C'est la campagne Disinvest. Ça veut dire quoi, Disinvest? Ça veut dire n'investissons plus dans les énergies fossiles. C'est parti des étudiants sur les campus américains. Vous savez que les campus américains ont des dotations financières énormes de dons, etc., de fondations, de gros capitalistes américains et tout ça, et investissent ce pognon-là un peu n'importe comment, juste pour faire du pognon pour l'université. Et donc, une série de mouvements sont nés un peu partout et maintenant se répandent, notamment à travers The Guardian, le journal anglais, pour dire on arrête d'investir le pognon des universités dans Shell, dans Total, etc., etc. C'est un peu ce qu'on fait à Greenpeace d'ailleurs, et la campagne pour bloquer Shell, pour que Shell n'aille pas dans l'Arctique. Donc voilà, on est consommateur, on est épargnant et on est aussi citoyen. Et donc l'expression de notre vote, le fait déjà d'avoir une citoyenneté active, et donc évidemment il faut qu'on aille à Paris, c'est super important, parce que c'est cette convergence entre les îlots d'innovation dont Pierre parle et les changements macro dont David parle, qui nous permettra d'arriver à un autre modèle. Et vraiment, l'autre modèle est nécessaire. On voit aujourd'hui, c'est plutôt David qui peut dire ça, combien notre modèle de développement est déséquilibré. On le voit dans le sud, mais on voit aussi en Belgique, avec le nombre d'enfants pauvres en Belgique et de pauvres, etc., le chômage de longue durée, etc., etc., etc. J'ai pas besoin d'y revenir. On voit effectivement, c'est un modèle qui est hyper, hyper polluant. Et moi, j'ai parfois envie de dire, pour être encore plus dans le pessimisme, même si on a Esperanza, que le climat, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, que derrière le climat, il y a toute une crise de biodiversité qui est en train de se faire, qu'il y a un vrai problème d'accès aux ressources, que même si on dit on va faire de l'éolien, si on en fait toujours plus, eh bien on va manquer de terres rares, ces fameuses terres de pierres particulières, ces roches particulières, pardon, qu'on trouve en Chine et qui ont un impact sur les générateurs d'éoliennes, etc., etc. Donc oui, il est essentiel qu'on change notre modèle. Oui, il faut recréer des solidarités différentes, mais faisons-le à la fois au niveau local, et n'oublions pas qu'on est des citoyens, qu'on doit peser sur le cadre global, qu'on doit demander une fiscalité qui soit différente, qu'on doit demander une politique de transport qui soit beaucoup plus durable, etc., etc.
À côté de ça, ce qui fait quand même un peu peur, quand on réfléchit un peu, c'est quand même toute la sphère financière, également toutes ces multinationales qui ne voient pas d'intérêt direct, et ça c'est pour eux c'est important, les intérêts directs, qui ne voient pas d'intérêt direct de diminuer ces gaz à effet de serre, de faire des efforts, puisque pour eux faire des efforts dans ce sens-là, c'est peut-être aussi une perte de bénéfices, alors que déjà ils en font des tonnes et des tonnes. Il n'y a pas un peu cette crainte-là aussi? On parlait de Shell, enfin, est-ce que des entreprises comme ça, est-ce que des multinationales comme ça seraient prêtes à justement aussi à aller dans ce sens-là et d'agir? Puisque c'est quasi supranational, ça fait.
Bien sûr. Mais en tout cas, si je vais vite et puis je laisserai Pierre parler, mon expérience à Greenpeace, on est assez spécialiste pour emmerder les multinationales, on peut le dire, c'est qu'il y a une sensibilité à la réputation qui est vraiment considérable, que moi j'avais complètement sous-estimé quand on est arrivé, quand je suis arrivé à Greenpeace il y a 7 ans. C'est-à-dire qu'on s'est attaqué à Nestlé, on s'est attaqué à Mattel, à des grosses boîtes comme ça, même Shell, là, on a fait une action dans le port de Portland aux États-Unis, où le brise-glace de Shell devait partir, et puis on avait toute une série d'activistes, c'était une magnifique action, pendu à un pont qui allait bloquer le passage, et ben il a fait demi-tour, il a attendu une décision du tribunal pour y aller. Donc je pense vraiment que cet effet réputation là est gigantesque. Et donc là aussi, on est consommateur, donc dans nos choix de consommation, soyons clairs, mais aussi soutenons les pétitions, vidéos, machin, etc. C'est vraiment impressionnant de voir qu'un mastodonte comme Nestlé, qui devait changer sa politique en matière d'huile de palme, qui est un objet, qui est une cause de déforestation, qui est elle-même une cause d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, encore une fois, tout est lié, comme on le disait. Après 2 mois, on n'en revenait pas, mais Nestlé a dit, OK, les gars, venez parler et on va trouver une solution, quoi. Mais on avait envoyé 250 000 mails, vidéos, machin, trucs, etc. Pour les embêter. Donc je crois que c'est vraiment possible, mais c'est loin d'être évident, c'est une évidence, c'est clair. Il n'y a plus de micro, Pierre, donc je vais parler pour lui.
Si, ça va.
Oui, oui, tout
son micro est toujours là. Je ne sais pas, il y a un câble qui est tombé, mais on ne sait pas lequel.
Ouais, c'est pas grave. Non, moi, ce que je retiens de mes actions précédentes, c'est que... Enfin, mes actions, pas uniques, hein, avec d'autres. C'est que lorsqu'on voit les supermarchés, les multinationales, etc., etc., ce sont des mastodontes et il est totalement inutile de... En tant que citoyen, j'entends bien, pas comme Greenpeace, enfin, voilà, mais en tant que citoyen, de foncer droit devant et aller contre le mur, parce qu'ils sont trop forts. Et donc,
pas d'accord, mais bon.
Bon, on peut ne plus y aller, en fait.
Voilà, l'idée, c'est justement de pouvoir mettre plein d'alternatives sur le côté, où finalement, tout le monde y trouve son compte. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est non seulement consommateur, mais également acteur. On est dans une coopérative, par exemple. On va mettre en place des choses. Il y a une recherche, évidemment, pas uniquement de CO2 et de ceci et de cela, mais c'est plutôt du sens. C'est plutôt... De l'économie locale, c'est plutôt remettre des gens dans le circuit alors qu'ils en étaient complètement écartés. Donc il y a plein de choses éthiques derrière qui sont bien plus fortes en réalité que ce que toutes les multinationales peuvent nous proposer maintenant. Et donc en réalité, ce que craignent les multinationales, et en tout cas le secteur de la distribution, parlons de consommation, Olivier de Schutter, ancien rapporteur aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation, pourra le confirmer, c'est qu'en fait, les gens se détournent, en réalité, de cette espèce de passage obligé par le supermarché. Pourquoi ? Parce qu'on va devoir... quelqu'un qui se détourne de cela ne va plus aller chercher les petits trucs qui sont en promotion, les grandes offres, les trucs, les machins, enfin bref, toutes ces crasses. Et en réalité, le pire risque qui nous pend au nez, c'est qu'évidemment, tout ce qui soit mis sur pied sur le côté soit récupéré en fait par les multinationales. Maintenant, je pense qu'on est assez éduqués et il doit y avoir énormément de travail qui doit être fait au niveau des écoles, etc., etc., pour justement expliquer aux enfants, et ça remonte vers les parents, ce qui est bon et ce qui est moins bon. Parce qu'on a été emballé par une espèce de spirale de consommation, et maintenant il faut faire marche arrière. Mais la marche arrière est souvent bénéfique, parce que c'est quand même génial de pouvoir cuisiner en famille, c'est quand même génial de pouvoir savoir que des carottes ne poussent pas dans des boîtes, c'est quand même génial de savoir que des poissons ne sont pas carrés, c'est quand même génial de plein de choses. Et tout ça, en fait, c'est un lien qu'on doit retrouver, et c'est un lien forcément pour le climat, mais c'est un lien également pour l'économie locale, c'est un lien pour tout le reste. Et souvent, il y a des valeurs fortement éthiques derrière qui prime.
Oui, non, mais évidemment, bien sûr. Mais encore une fois, quand Pierre dit on ne peut pas s'attaquer aux multinationales, on est la preuve.
Greenpeace est bien classé.
Oui, donc voilà.
Non,
donc,
mais peut-être en tant que citoyen.
En tant que citoyen, je signe la pétition. D'abord, oui, je paie ma cotisation à Greenpeace. Bon. Hein. Deux, j'achète les trucs en son sur la campagne.
Non, mais voilà,
et trois, ah, oula, une attaque de multinationales. Et trois, on signe les pétitions, etc. Shell, on a fait.
Oui, mais parfois, peut-être qu'en tant que citoyen, on aimerait bien pouvoir agir directement. Enfin,
bien sûr,
plutôt qu'en signant des pétitions, en payant des cotisations, en achetant.
Non,
mais... voilà, on tombe dans le même système de consommation, du coup.
Non.
Le meilleur moyen
non,
de.
Non, mais je pense
que
les deux sont
boycotter,
pas incompatibles,
c'est de faire du
bike. Non, je pense que les deux sont pas incompatibles, vraiment. Et que, encore une fois, l'effet réputation, il est largement plus important que ce qu'on pense. Deleuze, on a fait un truc Facebook l'année passée. Il a fallu 20 000 personnes pour que Deleuze dise OK, on revoit notre politique là aussi en matière d'huile de palme. Donc, c'est pas impossible, vraiment, c'est pas impossible.
Non, bien sûr, c'est pas impossible. Et puis, c'est peut-être de l'éducation aussi. De l'éducation à peut-être retomber dans quelque chose de local, justement. De se dire, on va pas acheter ces poivrons déjà quand c'est pas la saison. Et au Deleuze, comme on disait Deleuze, mais d'aller plutôt aller chez l'épicier du coin. Bon, d'accord, l'épicier du coin, c'est peut-être pas non plus le nec le plus ultra. Mais il y a le marché bio. Mais enfin, bon, après, on peut pas demander à tout le monde d'acheter du bio non plus. C'est clair, mais voilà, mais déjà retrouver un circuit plus court.
Oui, mais je pense que pour revenir sur le fait, donc, je parlais du fait qu'on ne peut pas juste agir comme consommateur, mais je pense qu'on peut être militant en plein d'organisations. Il y a les organisations plus, je veux dire, institutionnelles comme Greenpeace ou le CNCD 1111, mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je vois des gens qui s'organisent dans différentes parties, enfin, dans beaucoup d'endroits, comme le disait Pierre, et en fait, par exemple, le réseau ADES à Bruxelles, donc ça, c'est que des volontaires, il n'y a pas un salarié. Ils ont mis en place la Biscope, qui est la coopérative alimentaire, qui va bientôt ouvrir son magasin, où il y a plein de coopérateurs. Et donc, en fait, il y a plein de choses qui existent. Et en fait, on démocratise. Bon, moi, je fais mes courses là, et en fait, ça coûte beaucoup moins cher d'acheter là que d'acheter dans un supermarché. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu. Il y a deux choses. Que bio a été un jour plus cher, c'est vrai. Qu'il l'est encore sur certains aliments, c'est aussi vrai. Qui a une histoire aussi de labellisation qui n'est pas forcément claire et que les gens apprennent des histoires en disant en fait ça ne change pas grand chose, mon label bio, j'y crois pas vraiment. C'est vrai, mais maintenant, on ne peut pas dire que dans les 10 dernières années, le bio s'est démocratisé vraiment. Et alors, il s'est démocratisé surtout dans les circuits, comme on disait, les groupes d'achat commun, les coopératives qui voient le jour, etc. Et donc, je pense que moi, par exemple, mes parents, quand ils sont arrivés en Belgique, ils n'avaient pas beaucoup de pognon. Donc, moi, j'ai bouffé du Aldi jusqu'à 12 ans. Je me rappelle que c'est ma sœur et moi en parlant à nos parents, ils disaient ouais, faut être cohérent parce que dans notre école, une école à pédagogie alternative, on nous disait qu'il fallait être cohérent. Le mot, on ne savait pas ce que c'était. Et donc à un moment, on dit à nos parents, faut être cohérent. Et donc on dit en fait, faut peut-être arrêter de manger. Et puis ça arrive au moment effectivement où tous les deux ont une vie plus stable. Et donc effectivement, ils ont commencé à s'intéresser à ça. Mais les changements culturels prennent du temps. Et je pense que la meilleure manière de faire que ce soit plus, on va dire, un habitus, quelque chose d'une classe moyenne aisée, le bio, il faut le rendre populaire. Et donc, c'est effectivement dans les écoles, c'est rendre public toutes ces initiatives locales qui ne bénéficient pas de la visibilité de toutes les pubs qu'on a partout pour Carrefour ou pour Deleuze ou Colruyt, peu importe. Et aussi, se réjouir d'une chose, c'est que moi, j'ai remarqué, donc je me suis retrouvé, j'ai remplacé quelques fois des collègues et j'ai fait quelques animations dans des écoles. Il y avait vraiment personne d'autre que moi pour y aller, donc j'étais en école primaire alors que j'ai vraiment pas du tout de formation pour donner des formations ou quoi que ce soit à des gens de primaire, à des enfants de primaire, et j'étais surpris de leur niveau de conscience de la question du recyclage, etc. Et je pense qu'il y a quand même c'est plus la règle que l'exception. J'ai l'impression qu'il y a quand même maintenant dans les écoles la question du recyclage, de la planète, de l'écologie, c'est quelque chose qui est constant parce que c'est dans des gestes qu'ils doivent poser dans la classe. Et donc là, il y a un enjeu, quoi. C'est une porte ouverte géniale. Je pense que ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Enfin, j'étais évidemment pas là pour en témoigner. Mais
même il y a 10 ans. Hein,
même il y a 10 ans. Et donc, il y a vraiment un enjeu là. Et des enfants qui questionnent leurs parents. Et donc, moi, je serais assez optimiste. Je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est donner les conditions de possibilité à ces alternatives de se généraliser. Pour ça, il faut les rendre publiques. Il faut que l'acteur public, l'État, par le biais de législation intelligente, encourage ce type de comportement, parce que sinon, je rejoins Pierre aussi, ça va être récupéré par ceux qui sont champions pour le faire et qui le font déjà d'ailleurs. Donc là, je pense que le rôle de l'acteur public est fondamental et tout à fait insuffisant à l'heure actuelle.
Insuffisant, mais donc c'est aussi au niveau local, au niveau du citoyen, que tout se passe. Climate Express, par exemple, Greenpeace est un autre exemple. Il y a encore plein d'autres associations, ONG et autres. Et puis, c'est simplement changer aussi. C'est geste quotidien, peut-être. Et on vous donne rendez-vous, peut-être bien à Paris, du 30 novembre au 15 décembre. Il y aura d'autres événements qui se passeront d'ici là pour en parler. Il y a un site internet, peut-être.
Donc, le plus important, c'est aller sur www.parisapprendre.be et vous inscrire pour recevoir toutes les infos. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations dessus. Sachez que le 11, 12, 13, je pense, il y a Alternativa à Bruxelles qui est justement village des alternatives et qui veut mettre en évidence toutes les alternatives qui existent et qui a comme message de dire aux politiques les citoyens n'ont pas attendu que vous preniez les bonnes décisions pour faire des choses de transition. Embarquez dans le train. Et ça, c'est vraiment le message qui est intéressant et qui sera aussi présent jusqu'à la COP21. Et puis, le plus important, c'est si vous voulez partir avec nous en train, en vélo, en, Mon but, c'est d'aller sur le site pour recevoir toutes les informations.
Greenpeace.be mais... aussi, en fait.
Voilà.
Et n'oubliez jamais qu'il y a plein d'initiatives qui sont en train de voir le jour, notamment en termes de coopératives à finalité sociale. D'habitude, lorsqu'elles voient le jour, c'est qu'elles ont les reins assez solides. Donc, n'hésitez pas à mettre votre argent là-dedans plutôt que dans des banques qui vous spolient. Parce qu'au final, c'est ça la nouvelle voie. Et donc, c'est une alternative au système dominant, ce système dont on doit absolument se débarrasser. Point. Je pèse mes mots.
Voilà, bien, merci beaucoup à tous nos intervenants. David Mendès. Ben oui, non, mais voilà.
Mais c'est bien, il a conclu pour nous.
Oui, c'est très bien, c'était une très belle conclusion, du coup, je m'arrête là aussi. Donc merci David Mendès, Pierre Hauser et Michel Genet. On vous retrouve peut-être encore dans le village au possible aujourd'hui, peut-être même demain. Et voilà, pour venir discourir avec vous et discuter avec vous de toutes ces alternatives. Merci à Sylvain, à la technique.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Au revoir.
Par les ondes ou par le net, vous y êtes, en direct, vous écoutez Radio Esperanza. Restez branchés.